cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 15 janvier 86.
Oui, des questions sur lesquelles on reviendra. Je ne vais pas les traiter maintenant. Je vais donc, c'est bien, il faut quand même les poser, hein, même si je ne réponds pas tout de suite. On va essayer d'analyser les différents éléments que nous avions reconnus dans l'amour d'amitié. Et vous vous souvenez pourquoi nous essayons de découvrir le fondement qui en réalité est l'aspect de la finalité d'une éthique, d'une morale. Alors posez-vous toujours la question pour mieux comprendre comment une philosophie morale peut-elle se fonder ? Sur quoi doit-elle se fonder ? Ça, c'est une réflexion personnelle que vous devez faire vous-même. En reprenant ce que nous avions dit du côté de la topique historique, voir comment, en philosophie grecque, on a vu divers fondements de la philosophie morale. Comment, après la révélation du christianisme, on retrouve des positions analogues face à la position de Kant. Et comment Kant est renvoyé promener avec Nietzsche. Alors, devons-nous être nietzschéens, ou est-ce que, en face de Nietzsche, ne devons-nous pas, comme Heidegger le dit, reprendre le problème à la racine? C'est le coup d'encensoir que Heidegger envoie à Nietzsche. Il le fait par rapport à la philosophie première. Si la philosophie première est tombée si bas avec Nietzsche, et c'est pas étonnant, puisque Nietzsche dit que l'être est un mensonge, donc toute la philosophie première est un mensonge. C'est tombé si bas que ça ne peut pas tomber plus bas. Et donc, si c'est tombé si bas, il faut nécessairement que ça reprenne. Vous pourriez faire un raisonnement analogue en disant que l'éthique avec Nietzsche repose sur la créativité. Si l'éthique repose sur la créativité, elle tombe dans un subjectivisme absolu, puisque la créativité relève de l'inspiration, et qu'avec l'inspiration, on est en présence d'une certaine subjectivité transcendantale. Et donc, il n'y a plus d'éthique. On est en face d'une éthique de la situation. Et c'est vrai, je crois que l'éthique de la situation de Sartre est une conséquence directe. Bon, l'éthique de la situation, ce n'est plus une éthique. C'est tout simplement une attitude artistique. C'est très bien pour l'artiste, un art de situation. Vous voyez ce que ça veut dire, hein ? Quand on n'a pas d'inspiration. Alors, on essaie de faire comme on peut dans la situation dans laquelle on est. Mais en réalité, c'est la mort de l'éthique. C'est-à-dire, l'éthique est absorbée par le facere. Ce que je crois très souvent aujourd'hui, c'est l'efficacité qu'on regarde. Et c'est le facere qui l'emporte. Donc, l'efficacité. Regarde dans la mesure même où ça a un intérêt d'efficacité. Si ça vaut quelque chose, face à ce dernier moment de l'éthique, parce que je crois que c'est le dernier moment de l'éthique, il faut donc tout reprendre à la racine. Et c'est pour ça que nous devons découvrir quel est le fondement de l'éthique. Nous avons essayé de chercher ensemble. Et nous avons essayé de comprendre qu'une éthique réaliste devait reposer sur une expérience. Quelle est l'expérience dans notre vie qui nous permet d'analyser cette expérience et de redécouvrir ce que peut être une éthique. Et nous avions vu que seule l'expérience de l'amour d'amitié permettait cela. Il faut que pour vous, ça devienne une évidence. Alors ça dépend de vous, ça dépend pas de moi. Puisque je vous dis que vous devez poser toutes vos objections. Et donc, si vous avez des objections par rapport à ça, vous devez les noter. Puis on répondra à ces objections. En montrant que ça ne peut pas reposer sur tel autre aspect. Et c'est très important au point de vue philosophique de voir sur quoi peut se fonder l'éthique. L'expérience d'amour d'amitié. Cette expérience de l'amour d'amitié est une expérience extrêmement riche qui implique de multiples éléments, ce que nous avions essayé de faire, du moins d'analyser rapidement. Et nous voyons que l'amour d'amitié repose fondamentalement sur un amour spirituel. Je ne dis pas quand cet amour spirituel va s'éveiller en moi. Ça, c'est une autre question. C'est la question de la pédagogie. La question de comment je puis éduquer cet amour spirituel. Je constate ici, je pars d'une expérience donnée, l'expérience de l'amour d'amitié. Et j'essaie de comprendre comment cet amour d'amitié présuppose un amour spirituel. Cet amour spirituel est volontaire. Il est l'acte propre de ce que représente cet appétit spirituel qu'on appelle la volonté. Alors, je ne parle pas ici de ce que c'est que la volonté. C'est en philosophie du vivant qu'on doit en parler. Mais nous posons la poulessis grecque. L'acte d'amour spirituel à l'égard d'un bien spirituel, c'est-à-dire une personne. C'est une personne qui est un amour spirituel. En dehors de la personne, il n'y a pas d'amour spirituel. Là encore, c'est très intéressant à voir cela. Est-ce que la gloire représente un bien spirituel ? Est-ce que la richesse représente un bien spirituel ? Ou est-ce que seule la personne humaine est vraiment un bien spirituel ? Oui, je souligne les tournants, les moments importants où vous devez vous-même essayer de comprendre ce que je vous dis, pour que ce soit une évidence pour vous, et non pas quelque chose que vous recevez. Il faut que ça devienne une évidence. Tant que ce n'est pas une évidence, vous ne progressez pas au point de vue philosophique. Vous restez dans l'ordre dialectique de l'opinion. Vous pouvez momentanément vous appuyer sur l'opinion, mais il faut revenir tout le temps en secouant très fort pour vous demander qu'est-ce que c'est qu'un bien spirituel ? Quel est le bien spirituel pour nous ? C'est la personne humaine. C'est Pierre que je considère comme mon bien. C'est pas n'importe qui, hein. Je ne dis pas que c'est l'humanité. L'humanité n'est pas mon bien, parce que l'humanité n'existe pas. Donc, c'est pas mon bien. Tel homme. Ah, il y a des quantités d'hommes devant lesquels je suis passé qui ne m'ont pas intéressé. Pour l'enfant, c'est son papa. C'est la première expérience que nous avons de l'homme. C'est notre père. C'est pour ça qu'au début, l'enfant appelle tous les hommes des papas. Très joli ça, parce que ça montre bien que ça s'impose à lui comme ça. Puis petit à petit fait un discernement en posant des questions très particulières pour essayer de comprendre justement comment il arrive à connaître l'homme. Et puis quand il grandit, il a des amis. Il y a Jacques, ou Jules, si vous aimez mieux, hein, qui s'impose à lui. Et il dit, c'est mon ami. La première fois qu'un gosse dit ça, c'est très impressionnant. C'est mon ami. Et qu'il le dit avec conviction, pas simplement rapporté, en rappelant, c'est mon ami. Regardez dans l'écriture, le premier moment où on voit un lien d'amitié. Parce que l'Écriture nous montre des liens d'amitié. Jonathan et David. C'est impressionnant. Des liens d'amitié. Il n'y a pas beaucoup de liens d'amitié entre Caïn et Abel. C'est curieux que la rivalité soit présentée en premier lieu. Les liens d'amitié entre Ève et Adam, on n'en parle pas beaucoup non plus. Entre Abraham et Sarah, l'intimité conjugale a l'air d'être pas mal secouée. Jacob et Rachel, un coup de foudre. C'est quand même intéressant de voir que l'Écriture donne ça. Ça fait partie de... Puisque l'Écriture représente une tradition religieuse au point de vue philosophique, que je n'ai pas le droit de mettre entre parenthèses. Donc, je peux m'en servir, philosophiquement parlant, et c'est quelque chose de très important pour moi. Donc, je découvre que ce qu'il y a de fondamental dans l'amour d'amitié, c'est d'être ébranlé par une personne humaine que subitement je considère comme mon bien. C'est mon bien, quelqu'un qui m'attire, quelqu'un qui suscite en moi un amour. Le bien, c'est ce que tous désirent. La vieille, c'est pas une définition, l'approche d'Aristote. Le bien, c'est ce que tous désirent. Le bien attire. Là, je montre l'effet propre du bien. Le bien attire. Le bien suscite en moi un amour. Pas une émotion, un amour spirituel, quand il s'agit d'un bien spirituel. Et il y a une connaissance à cet amour premier, ou une connaissance très simple. Ce qu'il ne peut pas y avoir d'acte d'amour sans une certaine connaissance. Je me suis trouvé subitement devant quelqu'un que je ne connaissais pas, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas être indifférent. Tandis que je suis indifférent pour des quantités de personnes. Alors, ça s'éveille d'un coup, ou ça met du temps. Pas d'importance au point de vue philosophique. Hein. Je ne suis pas indifférent. C'est très curieux. Ce premier amour que nous ne vivons jamais dans cet état pur, ça présuppose une analyse. Je le dévoile, ce premier amour. Il existe. Il n'y aurait pas d'amour d'amitié s'il n'y avait pas ça. Alors je peux remonter génétiquement. Je suis l'ami d'un tel. Ah, quand on s'est rencontré pour la première fois, tu te souviens? Ah oui, oui, on ne se souvient plus du tout. L'un se souvient et pas l'autre. Ça peut arriver ça. Il ne faut surtout pas le dire. Mais tu te souviens quand on s'est rencontré la première fois? Tout de suite j'ai compris. Et l'autre n'avait rien compris. Ça peut très bien se faire, ça. C'est tout de suite, j'ai compris. J'ai compris qu'il y avait un lien entre nous. Je ne savais pas exactement ce que ça ferait. C'est curieux, ça. C'est très, très curieux. Vous voyez, ce premier amour n'est pas nécessairement réciproque. Pas du tout. Dans l'amour d'amitié, on croit que c'est réciproque, mais pas du tout. Il y a eu un éveil chez l'un, l'autre, il a continué de dormir. Et c'est curieux, cette personne, elle me regarde, je sais pas ce que j'ai. Elle a l'air d'être attentive à moi, je sais pas ce qui se passe. Je reçois un billet curieux en disant « je t'aime », qu'est-ce que ça veut dire, ça? Coup de poing, tu vois, c'est celui qui veut déclarer qu'il aime quelqu'un. C'est pas comment déclarer quelqu'un qu'on l'aime? D'abord, on sait pas très bien ce que c'est. C'est très curieux, l'éveil de l'amour. Vous voyez, ça c'est très très important. Une source qui s'éveille. Quelque chose en moi qui s'est éveillé. Le volcan commence à fumer. La chaleur du nid, c'est notre cœur qui commence à aimer. Et qui se porte sur une personne. Alors on peut évidemment chercher après coup des motivations. Les psychologues, il est de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre, très bien. Il est l'ami de nos amis. Ah oui, puis il y a une vieille parenté, c'est pas étonnant qu'on s'aime, parce qu'on se retrouve. Il y a une connaturalité, ainsi de suite. Mais c'est pas ça du tout. Le premier amour ne provient pas du tout de ses motivations. Ce premier amour, il provient de quelque chose de beaucoup plus profond. Les motivations, c'est très secondaire. Il provient de quelque chose de beaucoup plus profond, c'est le bien qui éveille, qui suscite un amour. Le bien, la personne aimée, la personne qui est mon bien. Et là, on est en face, dans le langage de Gabriel Marcel, on est en face d'un mystère. Je n'aime pas beaucoup d'employer ce langage, mais ça dit assez bien quand même. Hein. On est en face de quelque chose qu'on n'explique pas. L'amour ne s'explique pas. L'éveil premier de l'amour ne s'explique pas. Cette personne m'attire. Il y a un lien. Alors, je peux, philosophiquement, étudier ce premier amour, c'est même très important. Ce premier amour spirituel, hein. Je ne dis pas passionnel, spirituel. Je suis parti de l'amour d'amitié. Et l'amour d'amitié est spirituel. Et donc cet amour d'amitié présuppose un amour spirituel. L'amour d'amitié commence par un éveil d'un amour spirituel à l'égard d'une personne. Et une première connaissance, mais très simple. Connaissance quand même à l'égard de cette personne. Ce premier amour, cet amour spirituel, qu'est-ce qu'il est? Il est évidemment très difficile à analyser puisque c'est l'amour élémentaire, fondamental. Alors, d'une certaine manière, c'est particulièrement difficile à expliciter. Je crois que nous pouvons comprendre assez vite que cet amour spirituel m'a délogé. Tout de suite. Avant, je ne m'occupais que de mes souliers. Je ne m'occupais que de telle ou telle chose secondaire, de mon travail, des examens, de l'argent. Subitement, je ne m'occupe plus du tout de ça. Je suis saisi par autre chose. Je suis pris par autre chose. Cette personne m'attire. Il y a une attraction. Et la réponse à cette attraction, c'est un amour. C'est pour ça que je peux dire que l'amour qui répond à cette attraction, il est extatique. Fondamentalement, il est extatique. Il me fait sortir de moi. Tandis qu'avant, je ne m'occupais que de moi, de mon avoir. C'est un trans-avoir, vous voyez, cet amour spirituel. Ça m'étend à voir, ça me fait dépasser tous mes avoirs, tout ce que je peux posséder, tout ce qui est les circonstances habituelles dans ma petite vie habituelle. Soudainement, je suis délogé, empoisonnant. Je ne suis plus le même. Je suis porté vers cette personne. Un amour extatique. Et en même temps que cet amour extatique, je suis capable de m'intéresser à cette personne. Moi qui jusque-là étais un intellectuel, qui ne s'occupait qu'aux livres, subitement les livres deviennent secondaires. Et je m'intéresse. J'essaie de la rencontrer. J'essaie qu'elle s'intéresse à moi. J'essaie de l'accueillir. En même temps que l'Estasien accueille, c'est très curieux. Oh, c'est très fondamental. C'est très caché. Mais je crois que tout amour implique ça, tout amour spirituel. Cet amour n'implique pas une conscience claire, une conscience très obscure. Et la plupart du temps, je m'apercevrai de cet amour qu'au moment où la personne qui m'attire me quittera. Très souvent. Si cet amour premier ne s'est pas développé dans un amour d'amitié, s'il est resté à l'état latent. C'est pour ça qu'ordinairement, je le découvre à partir de l'amour d'amitié. Mais je peux quand même saisir ce premier amour à l'état latent. Et quand la personne qui m'intéresse s'absente, je vois un vide, il y a un creux. Elle me manque. Oh, j'avoue pas. Mais si je suis tout à fait loyal, je peux dire, elle me manque. Je m'étais habitué à cette relation, à cette manière de l'aimer. L'amour connaturalise profondément ma volonté avec la personne aimée. C'est une connaturalité. Mais une connaturalité qui est une attirance. C'est dans une attirance. De sorte que ce n'est pas seulement une connaturalité, la connaturalité pourrait demeurer dans l'immanent. Quand je suis attiré et je sors de moi. C'est en ce sens-là que la similitude n'explique pas l'amour. La connaturalité n'explique pas l'amour. Elle est un élément. Et l'amour me fait sortir de moi, me fait tendre vers le bien. Je crois que ça, nous pouvons tous, je ne dis pas l'éprouver et le sentir, mais nous pouvons l'analyser. Découvrir en nous. Ce premier amour va se changer, va se transformer, va se nouer autour du bien qui devient ma fin. Le bien devient une fin. Vers laquelle je tends. Oui, c'est pas la même chose d'être attiré par le bien et de mobiliser mes forces pour tendre vers ce bien comme étant ma fin. Il y a une espèce d'option qui se fait. C'est pour ça que c'est conscient. Le premier amour est voilé. Il faut le dévoiler. Tandis qu'au contraire, lorsque ce bien devient ma fin, il mobilise mes forces. Il me noue. L'amour ne noue pas par lui-même. C'est pour ça qu'à la fois il me fortifie, il me rend fragile. Et c'est vrai. Ce premier amour, il me fortifie parce que il m'oriente vers, mais en même temps il me fragilise. Subitement, je deviens beaucoup plus vulnérable. Il y a des tas de choses qui avant m'étaient totalement indifférentes. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne suis plus indifférent. Tout ce qui regarde cette personne me touche et me blesse plus que si c'était moi. Donc ça me fragilise. L'amour fortifie et fragilise, alors que lorsque je passe du bien à la fin, c'est tout à fait autre chose. Ce passage est très intéressant à voir. Comment je passe du bien à considérer que ce bien, cette personne humaine qui est mon bien, devient ma fin. Devient ce vers quoi je tends. Voilà, essayez de comprendre la différence entre ce vers quoi je tends et répondre à une attraction. C'est pas la même chose du tout. Répondre à une attraction, c'est aimer. Tendre vers ce bien comme ma fin implique de me mobiliser. C'est beaucoup plus volontaire. Tu vois, beaucoup plus volontaire dans le sens où habituellement on appelle la volonté. Le premier amour, il est volontaire, mais il explicite dans la volonté un aspect de réceptivité, presque un aspect de passivité. Tandis qu'au contraire, lorsque je tends vers ce bien comme ma fin, ça implique un aspect volontaire qui me noue, qui noue mes forces. Je suis comme mobilisé. Je ne suis pas du tout mobilisé par l'amour. Oh non. Tandis que l'intention de vie qui naît à partir de cet amour me mobilise et me tend. Et l'amour ne tend pas. L'intention de vie peut me tendre. Parce que je tends vers ce bien comme ma fin. Il y a quelque chose d'analogue entre appréhension et jugement, entre ce premier amour et cette intention de vie. Et c'est même très éclairant de voir ces deux en parallèle. Dans l'intention de vie qui provient de ce bien qui est ma fin, je suis immédiatement pris pour tendre vers cette fin. Et on pourrait dire, en comprenant bien, c'est schématique, mais c'est schématique avec quelque chose qui est vrai. La volonté, appétit spirituel, intellectuel, le bien. Spirituel, la personne, c'est mon bien. Je suis réceptif. Je me laisse attirer, prendre. Puis cet appétit va se transformer en une intention de vie. Premier, deuxième. L'aspect volontaire dans l'intention de vie est beaucoup plus explicite. Il y a une mobilisation de toutes mes forces. Et je tends vers ce bien qui devient ma fin. Alors, le lien entre l'intention de vie et la fin est différent que le lien entre l'appétit spirituel et le bien spirituel. Et je peux mettre un parallélisme entre appréhension et jugement. Dans l'ordre de l'appréhension, je suis réceptif. Dans l'ordre du jugement, je discerne. Je domine. Grâce grâce à l'intention de vie, je domine. Et ceci implique beaucoup plus le « c'est mauvais ré ». Je m'oriente vers ma fin. Et je suis tout entier orienté vers ma fin. Tandis qu'au contraire, dans l'appétit qui implique cette réceptivité, cet appétit intellectuel, spirituel, à l'égard du bien spirituel, je suis beaucoup plus passif. Pas uniquement, puisqu'il y a un acte d'amour, mais une réceptivité beaucoup plus grande. C'est très curieux. Il faut bien saisir ces deux moments si importants, la découverte du bien, la découverte de la fin. Ce n'est pas la même chose, le point de vue du bien et le point de vue de la fin. La fin se fonde sur le bien et non pas le bien sur la fin. Toute fin implique un bien, mais tout bien n'est pas une fin. Et un passage naît entre les deux. J'aime Pierre, mais je ne le considère pas comme ma fin. Je l'aime, c'est agréable. C'est agréable de le voir. Mais je suis réceptif, pas plus. Tandis que lorsque je considère que Pierre, qui est mon bien, devient ma fin, je mobilise toutes mes forces pour aller vers lui. Je tends vers lui. C'est dans ce sens-là qu'on peut mettre une flèche de cette manière, et de l'autre côté, la flèche est inverse. C'est le bien qui m'attire et qui me transforme. C'est le bien qui agit sur moi. L'élément d'action, c'est le bien. C'est ça la causalité finale. Tandis qu'au contraire, du côté de l'intention, je me noue pour tendre vers. L'intention de vie, c'est tendre vers. Tandis que, on ne peut pas dire que l'amour, c'est premièrement ça. L'amour est extatique, alors vous dire, il tend aussi vers l'autre. Oui, mais c'est une extase dans l'ordre de l'amour. Il n'y a pas du tout d'efficience. Tandis que là, je tends vers un aspect d'efficacité. C'est pour ça que je dis, il y a un aspect volontaire qui est beaucoup plus déterminé. La volonté se noue dans l'attention de vie. Tandis qu'au contraire, dans l'amour, je ne peux pas dire que la volonté se noue. Je suis au contraire en face de quelque chose qui demeure ouvert. J'aime. Il n'y a pas de dilettantisme. L'amour n'est pas dilettante. L'amour peut devenir dilettante. Et l'amour n'est pas dilettante par lui-même. L'amour me délore. Donc il n'est pas dilettante. Le dilettantisme, c'est justement empêcher que cet amour spirituel devienne une intention de vie. Et ceci par l'imaginaire. L'imaginaire peut corrompre ce premier amour. Et quand l'imaginaire corrompt ce premier amour, l'imaginaire fait que je tombe dans le dilettantisme. Oh, comme il est agréable d'être ensemble. Un dilettantisme, un peu mondain, quoi. L'aspect mondain, c'est du dilettantisme. Et cet imaginaire, ce n'est plus le réalisme du bien. Je crée un petit salon, pas seulement pour le thé, mais pour la conversation. Tellement agréable de discuter indéfiniment, en tournant rond. C'est l'imaginaire qui s'empare de l'appétit et qui empêche l'appétit volontaire, ce premier amour, qui empêche cet amour de se transformer en intention de vie. Et ça, chez les intellectuels, ça arrive constamment. Chez les hommes pratiques, non. Mais chez les intellectuels, c'est le grand danger. Parce qu'ils sont intelligents. Et là, facilement, l'intelligence exalte l'imaginaire. Et puis l'intellectuel a un développement spirituel très grand, il a de la peine à s'engager. Beaucoup de peine à s'engager. Et parce qu'il a beaucoup de peine de s'engager, il s'arrête là. C'est tellement plus agréable d'aimer sans aucun engagement. L'intention de vie m'engage. C'est une décision d'engagement de vie. L'intention de vie, ça m'engage vers ma fin. Je considère que mon bien devient ma fin. Et donc, doit nécessairement mobiliser toutes mes forces dans une efficacité de vouloir à tout prix atteindre cette fin. Je veux à tout prix atteindre cette fin. Donc, il y a là deux moments intérieurs. Hein, nous les vivons intérieurement. Nous pouvons très bien les analyser intérieurement. Comprendre la différence entre ce premier amour fondamental, spirituel, et l'intention de vie. Et je crois que c'est par ces deux flèches que je montre le mieux. Le bien agit sur l'appétit. Je suis réceptif. Je réagis, j'aime. Et je me donne. Je suis en extase. Et au contraire, ici, c'est la volonté qui prend le primat et qui prend l'initiative. Tu es ma fin. Quand quelqu'un vous dit ça, attention aux conséquences, hein, parce que vous l'aurez sur votre dos. Tu es ma fin. C'est pas la même chose du tout que tu es mon bien. Le bien attire, perfectionne, mais la fin fait quelque chose de plus. On veut posséder sa fin. On veut être le plus proche possible de sa fin. Tandis que le bien, on l'aime. On est au-delà des conditions de temps et d'espace. On aime quelqu'un. Oh, tu peux partir très loin, je continue de t'aimer. Mais si vous avez considéré que ce bien est votre fin, ah, je dois tout prix être là, tout proche de toi. Parce que si tu n'es plus là, je suis comme une fleur qui n'a plus de soleil. Alors à ce moment-là, je me replie. Et tous les jours, c'est le soir. Et il n'y a plus de soleil. Alors, on voit très bien la manière dont on passe du bien à la fin. Comme ça, nous pouvons tous saisir ça. Nous avons suffisamment d'expérience pour saisir ces deux moments très importants. Il y a un changement de vitesse. C'est pas du tout la même chose d'être engagé vis-à-vis d'une fin que d'aimer. Transposer, si vous voulez, dans l'ordre de la vocation. Ah oui, je désire beaucoup, j'ai choisi le Christ. Oui, c'est lui que j'aime, c'est lui que j'aime, c'est mon bien. Ah oui, très bien. Ah, je l'aime au-dessus de tout. Très très bien. Qu'est-ce que vous faites? Ben rien, je l'aime. Je passe des heures à l'horizon. Ah, c'est magnifique, je suis déjà dans le paradis. C'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que vous faites? Rien. Il y a un moment où on passe du bien à la fin. Et là, c'est pas commode. Vous voyez? C'est... Que disait le Père de Haut, la différence entre le ronronnement du petit chat et le vol de l'aigle. Le vol de l'aigle implique l'intention de vie. Vous êtes des aigles quand vous avez une intention de vie. Pas avant. Avant, on ne discerne pas très bien si vous êtes du côté du chat ou du côté de l'aigle. Ça ronronne très bien. Discernement de cette prise en main, si vous voulez, de notre vie. que notre vie soit prise en main, il est nécessaire qu'il y ait un amour. Mais l'amour ne suffit pas. Alors, c'est là où c'est très intéressant de regarder, il faut le faire, la place différente de l'intelligence par rapport à ce premier amour et la place de l'intelligence par rapport à cette intention de vie. Enfin, toutes nos activités humaines et tout ce que nous allons voir au point de vue moral impliquent toujours intelligence et volonté. Toujours. Il n'y a pas d'acte humain sans l'intelligence. Il n'y a pas d'acte humain sans la volonté. Mais la volonté et l'intelligence qui vont de pair et qui impliquent un mélange constant, le mélange n'est pas le même. Oui, si on arriver à analyser pleinement ce que représente ce premier amour volontaire, on verrait que l'intelligence tient une place très faible. C'est pour ça que les gens trop intellectuels, qui sont tombés un peu dans le cérébralisme, n'aiment plus. Ils aiment leur bibliothèque, mais ça c'est chose. Ils n'aiment plus. Ils n'arrivent plus à aimer. Parce qu'ils ont trop développé leur intelligence. Alors, la volonté s'est très peu développée. Ça existe. Alors, quand c'est dans un ménage, vous voyez que c'est désastreux. Alors, si on a une épouse extrêmement fidèle, elle arrivera à aimer les livres de son mari. Par amour pour lui, elle arrivera de cette manière à être encore présente auprès de lui à travers les livres qu'elle aime. Mais elle devra se mettre un peu plus loin. C'est très curieux de voir ça. Parce que ici, l'amour domine. Tandis qu'au contraire, dans l'intention de vie, ce bien qui devient ma fin implique une intervention de l'intelligence beaucoup plus grande pour mobiliser toutes mes forces et les orienter vers ce bien que je veux acquérir. Parce que quand je dis que c'est ma fin, je veux être le plus proche possible de cette fin et je veux la posséder. De sorte que dans l'intention, il y a tout de suite deux aspects dans l'intention de vie. Il y a tout de suite deux aspects. Il y a une union affective et une union effective. Tandis que je ne peux pas faire cette distinction au niveau de l'amour. Tandis que je fais cette distinction au niveau de l'intention de vie. L'union affective, l'union effective. Ça regarde la fin. La fin en tant qu'elle est bien pour moi. En tant qu'elle est mon bien, je suis uni affectivement à elle. La fin, en tant qu'elle joue le rôle de fin, alors je tends vers une union affective. Et c'est très important aussi à saisir. L'union affective, l'union effective à l'intérieur même de l'intention de vie, qui me fait comprendre l'intervention beaucoup plus profonde de l'intelligence dans l'intention de vie que dans l'amour. Parce que je vois toute la distance qui existe entre moi qui aime et ma fin. Elle est quelque chose d'éloigné de moi, quelque chose de lointain. Et je dois donc mettre tout en cause pour essayer d'être avec elle, pour la rejoindre, pour être le plus proche possible d'elle, pour faire que l'union effective soit consommée dans l'union affective ou que l'union affective s'achève pleinement dans l'union effective. Mais ça, c'est le réalisme de l'intention de vie. Et ce réalisme de l'intention de vie réclame l'intelligence. C'est l'intelligence qui, à l'intérieur de l'amour, va éclairer tout un ordre intérieur qui me polarise vers ce bien que je considère comme ma fin et qui ordonne tout en moi. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.